nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 27 février, il est 18h. Bienvenue dans Cours d'honneur. Bienvenue dans le magazine culturel de la Sorbonne. Une fois par mois, les étudiants de la plus vieille fac de France prennent place dans le studio de Radio Campus Paris pour vous raconter les meilleures histoires qui parcourent les couloirs de la Sorbonne Université. T'es un peu fatigué, il fait froid, il fait moche, t'es casse. C'est le dernier dimanche du mois avant mars et on est là pour te requinquer avant de commencer la semaine. Si t'es crevé d'avoir passé le week-end à danser ou même tranquille avec tes potes et que t'as la flemme de remonter dans le métro demain, t'es au bon endroit. Ce soir, prépare-toi bien, on t'emmène sur la route du fun avec nous. Musique, ciné, chaleur, soleil, savoir utile, inutile, on a tout ce qu'il te faut pour repartir au taquet dans la semaine qui commence. Alors, du fond de l'amphi jusqu'au sommet des chambres de bonne, vous êtes les bienvenus dans la cour d'honneur. Salut, moi c'est Blanche, ce soir je te guide dans le super moment que t'ont préparé les bénévoles de RSU, et comme pour passer un bon moment c'est toujours mieux d'être avec des bons potes, je te présente mon crew de ce soir, et on commence par notre très cher président, même s'il aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, Pierre.
Bonsoir à toutes et à tous, alors moi aujourd'hui je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de musique et de politique.
Ok, à ses côtés nous avons notre spécialiste cinéma, Olga.
Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler de cinéma sénégalais avec Atlantique de Mati Diop.
Et pour finir, le taulier, celui qui était déjà là quand RSU s'appelait Radio Paris Sorbonne, c'est bien sûr Thomas.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me faire passer pour un vieux de la vieille qui n'a jamais réussi à décoller des bancs de la fac. Aujourd'hui, je vous parle d'un instrument de musique méconnu, mais qui est sans doute peut-être le joyau, le cœur de la Sorbonne, un orgue qui se trouve au cœur de notre fac.
Très bien, on attend ça avec impatience. Et on finira comme d'habitude avec une création sonore de Nathan qui nous fera voyager, mais dans sa tête. Et pour commencer, c'est moi qui prends la parole.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe. Il a créé un homme qui est devenu un monstre.
Procès du 13 novembre, procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, procès Nordal-Lelandais. Si ces noms vous sont familiers, c'est pas forcément parce que vous êtes accro à Détective Magazine, c'est juste qu'en ce moment, à la radio, à la télé, dans les journaux, les crimes et leur traitement en justice sont partout. Serions-nous un peuple de criminels en puissance? Avons-nous une police particulièrement inefficace? La société est-elle plus violente aujourd'hui, ou bien les journalistes, ces gens bizarres, sont obsédés par le crime, le glauque et les tribunaux? En fait, rien de tout ça. Il n'y a pas plus de criminels aujourd'hui, notre civilisation n'est pas totalement détraquée, mais encore une fois, ça remonte à plus loin. Et comme c'est ce que je préfère, je vous emmène faire un petit tour dans le passé et on va jeter un coup d'œil sur le lien si fort qu'il y a entre journaux et tribunaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la révolution de la presse ? France, deuxième moitié du 19e siècle, grâce au progrès de l'alphabétisation, il y a de plus en plus de potentiels lecteurs. Il faut fondre des journaux et on vend toujours plus quand c'est pas cher. Sauf qu'on est sous le Second Empire et la presse politique est hyper contrôlée. Les journaux doivent payer un timbre pour être publiés et le timbre, il coûte cher et il fait monter le prix du journal. Donc, pour avoir un journal moins cher, il faut un journal non politique. Et là, naît un grand journal de presse populaire, le Petit Journal, avec ses unes pleines de gravures colorées, de tribunaux, des échafauds ou même des criminels en pleine action. C'est que le crime, ça fascine. Et donc, une partie de la population qui n'achetait pas de journaux politiques va acheter le Petit Journal. Il est pas cher et stimule l'imagination. On le voit de manière spectaculaire avec l'affaire Troppmann en 1869. Jean-Baptiste Troppmann a assassiné une famille de 7 personnes et le Petit Journal suit son procès. Il publie chaque séance au tribunal comme un feuilleton. On veut connaître la suite, du coup, on achète. Fin 1869, le Petit Journal tire deux fois plus que tous les journaux parisiens réunis et le jour de l'exécution, ça monte à 600 000 exemplaires, suffisamment pour en vendre à la moitié des Parisiens. Enfin bref, la presse, c'est aussi une industrie et le crime, un produit d'appel. Le vrai crime se transforme en feuilleton, il tue et on achète. Et les autres ont tellement bien compris que tous les journaux commencent à avoir dans leurs pages des rubriques criminelles ou de faits divers, et certains se spécialisent même là-dedans. Et ouais, avant Détective, on avait déjà au 19e la Gazette des Tribunaux. Mais attendez, vous vous souvenez que je vous ai dit que l'affaire Troppmann, c'était en 1869, la dernière année du Second Empire. Après, 1870, c'est le début de la Troisième République. Dans l'histoire de la presse, il y a un autre moment qui est très important, l'affaire Vacher en 1898. Vacher, c'est presque le premier tueur en série français. On l'appelle le tueur de bergers ou Jack l'éventreur du Sud-Ouest. On le soupçonne d'une cinquantaine de crimes, bergers et bergères retrouvés sur les chemins ruraux, égorgés et violés. L'affaire a de nouveau un retentissement énorme et Vacher devient une figure de l'imaginaire populaire. Mais 1898, c'est aussi l'année de l'affaire Dreyfus. Trumpman à la fin du Second Empire, Vacher pendant l'affaire Dreyfus. Le lien est fait par les historiens, volontairement ou non, ces affaires ont lieu à des moments de crise politique. Et miracle, se passionner pour elles permet de se détourner des difficultés du régime tout en augmentant les ventes. Génial, non ? Revenons à notre époque, parce que ça me donne une petite idée. Je crois que cette analyse pourrait avoir du sens dans la situation actuelle. Le crime fonctionne toujours comme un produit d'appel. Une affaire ignoble apparaît et là on veut en savoir plus. En gros, c'est du putaclic. Ou alors, on suit l'enquête, comme dans un roman on attend le dénouement, mais là on se demande quelle sera la condamnation. Ensuite, on dirait bien qu'on est dans un moment de crise politique et que c'est plus agréable de regarder ailleurs. Accroissement des inégalités, Covid, tensions en Ukraine, Zemmour, Le Pen, Macron, les présidentielles qui rament, c'est clair que parler d'autre chose, ça nous fait du bien. Surtout que ces histoires de procès permettent aussi de réunir la société. On peut tous être à la fois horrifiés et un peu fascinés par Nordal Le Landais, et dans une société hyper divisée, ça nous permet de faire groupe à nouveau. On se rassure sur la morale collective, on désigne le mal, le méchant, tout en s'assurant qu'on est du côté des gentils et que c'est bon, tout va bien. En médiatisant toutes ces affaires, on dit « regardez ça, c'est horrible » et la société nous répond « ah oui, 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 c'est horrible ». On teste et revalide les normes de la morale collective. Donc, le crime sert de divertissement morbide, il nous rassure sur les normes morales de notre groupe. Encore une fois, on s'en passionne pour pouvoir dire « ce sont eux les méchants et nous, on est du bon côté ». Mais je pense quand même à un truc. Les procès dont on vient de parler, c'est toujours pour des crimes de sang. Attentats terroristes, assassinats, violences pédocriminelles. Et il y a un domaine dans lequel on entend un peu moins parler des procès, les violences sexuelles, sexistes et les féminicides. Pas assez subversif peut-être, trop commun, pas assez sensationnel. Pourtant, sur les 75 800 plaintes pour viol et les 113 femmes tuées par leur conjoint ou ex en 2021, je suis sûre qu'on peut trouver une histoire qui est suffisamment croustillante pour faire la une des journaux plusieurs jours de suite. Et pourtant, rien. Donc, voici ma théorie. On est en train de vivre un basculement dans la morale collective. On peut dénoncer les viols et les féminicides, mais c'est pas encore assez vendeur. Pour cela, il faudrait que tout le monde soit prêt à entendre que les 100% méchants, le mal, l'altérité par excellence, ce sont les violeurs et les féminicidaires, et pas que les mecs qui sont sautés pour la religion et ceux qui tuent des enfants. Et ça, on n'y est pas encore. Parce que quoi qu'en dise notre président Macron, avec les femmes grande cause du quinquennat, on a toujours un ministre de l'Intérieur accusé de viol, un ministre de la Justice spécialiste pour faire acquitter les accusés de féminicide, et un candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, disons-le bien fort, accusé de viol par 8 femmes. Mais c'est pas assez choquant, pas assez révoltant, alors on en a parlé un temps puis ça a été vite oublié. Pourtant, officiellement, le viol est, au même titre que l'assassinat, un crime jugé en cour d'assises. Un ministre accusé de meurtre, impossible. Un ministre accusé de viol, tolérable. Mais pour faire passer de ça à tolérable à impossible, la presse peut nous aider. Ok, elle reflète la société, mais elle peut aussi la façonner. Alors, appel à tous les chroniqueurs judiciaires, ouvrez les portes des procès contre les violences faites aux femmes. Je suis peut-être cynique, mais en termes de puissance de pathos, des enfants dont le père a assassiné la mère, ça vaut bien une mère dont on a assassiné l'enfant.
Hey, this is not a test, this is rock and roll!
Aujourd'hui, Pierre va nous emmener se rouler dans la boue du combat politique contre les free parties.
À la base, je voulais vous parler du désormais bien nommé colloque de la honte qui a eu lieu à la Sorbonne début janvier. Pour résumer, l'idée était de déconstruire la déconstruction, d'annihiler à force d'arguments conservateurs la menace que notre cher ministre Jean-Michel Blanquer a identifiée, j'ai nommé le wokisme. Ce fut évidemment une blague intellectuelle financée par nos impôts, et je ne me suis toujours pas remis d'avoir croisé l'éditorialiste conspirationniste en chef, Elisabeth Lévy, dans la cour d'honneur, cigarette au bec, humeur massacrante avec. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Depuis le 13 février, on peut se moquer allègrement de Valérie Pécresse et de son éloquence digne du bruit désagréable qu'émet ma chasse d'eau une fois que je l'ai tirée. Mais de ce meeting, j'ai retenu une séquence peu commentée. Sur Instagram, j'ai vu un extrait de la préparation de cette débâcle dans lequel on voyait Nadine Morano on fire danser sur une musique électronique aux accents techno. Une fois remis de ce traumatisme chorégraphique, m'est venue une évidence. Si la même scène s'était déroulée dans un champ, que Madame Morano aurait porté une tenue un petit peu plus décontracte, assurément elle se serait faite gazer, aurait mangé du LBD ou aurait même peut-être perdu une main, comme c'est arrivé à un jeune lors d'une free party à Redon en juin dernier. Et là, on peut être sûr qu'à droite, on aurait parlé de violence policière. Come on, dance with me.
Thank you.
Pour bien comprendre de quoi on parle, retraçons un peu l'histoire nébuleuse des free parties ou rave. Le concept est apparu à la fin des années 80, en Angleterre, lorsque notre néolibérale préférée, Margaret Thatcher, a interdit les rassemblements nocturnes au-delà de 2h du matin. L'idée est alors simple, on organise une fête illégale pour diffuser de la musique électronique toute la nuit, et à l'époque c'était de l'acid house. De plus, la crise industrielle qui touche le pays a permis l'utilisation de beaucoup de hangars abandonnés. Et on peut dire que Thatcher a créé les rave parties. Et dans un mouvement masochiste d'autocensure propre aux conservateurs, elle a évidemment voulu tuer son bébé nouveau-né. Les sanctions lourdes poussent les artistes à venir en France, ce qui favorise l'émergence d'une scène extrêmement vive jusqu'à aujourd'hui. L'arrivée des raves en France a notamment permis l'explosion de la French Touch à la fin des années 90, et en particulier du groupe Daft Punk. Oui, ce même groupe que l'on joue aujourd'hui partout, et même à l'Elysée. Comme quoi, soit le pouvoir a la mémoire très courte, soit il se complaît dans l'hypocrisie la plus crasse. Évidemment, la riposte politique et juridique allait venir. Elle commence avec Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur dans les années 90. Celui-ci demande à la mission de lutte anti-drogue, dite MILAD, de rédiger une circulaire sur les rave parties, une sorte de guide des moyens de répression disponibles à l'époque pour les maires. Michel Bouchet, qui dirigeait cette fameuse mission, a alors déclaré « Le but est de mettre les organisateurs dos au mur pour qu'ils se civilisent ». On est donc dans la bonne vieille tradition républicaine française de civilisation de la différence. Qu'est-ce qu'on pouvait imaginer ? Que des personnes libres pourraient sérieusement organiser des soirées non déclarées, rassemblant des milliers de danseurs et de danseuses pour diffuser de la musique électronique, dont le rythme répétitif rappelle les rites païens les plus sombres, faisant finalement appel à nos peurs judéo-chrétiennes les plus archaïques. Qu'est-ce qu'on croyait ? Que finalement, là devant le mur du son, on pourrait faire société différemment, autrement, en marge, quige, qui aurait l'outrecuidance de vouloir danser librement, de jouir entièrement de son corps rythmiquement animé, et en plus, il paraît qu'il se drogue. C'est vrai qu'en comparaison, les hommes politiques qui prennent de la coke dans des boîtes à partout paraissent tellement raisonnables. Et ce serait tellement compliqué de mettre en place une politique préventive de l'usage de la drogue, plutôt que celle répressive, en vigueur, dont l'efficacité se démontre chaque jour. La riposte est donc sévère. Elle vient de la droite, surtout, mais aussi de la gauche libérale. Et c'est dans un article de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 qu'on retrouve l'amendement le plus liberticide possible, proposé à l'époque par un député de la droite extrême, qui s'assume d'extrême droite aujourd'hui, Thierry Mariani, propose en effet l'amendement qui précise que, je cite, « si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal. » Je vous le demande, chers auditeurs, très chères auditrices, qui imaginerait la possibilité dans un pays qui se prétend garant de la liberté, des droits humains, de la diversité artistique, qui imaginerait qu'on puisse confisquer le matériel de création d'un ou d'une artiste ? Et, ce faisant, que l'État se mette dans la position autoritaire de désigner qui est artiste et qui ne l'est pas. Ce n'est pas anodin que ce soit le ministère de l'Intérieur et non celui de la Culture qui prennent en charge les free parties. Par exemple, en 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait promis de, je cite encore, « demander au Parlement de modifier la loi sur le renseignement pour permettre à ses services d'anticiper des événements comme la rave illégale qui s'est tenue à Luron lors du Nouvel An ». C'est vrai que le renseignement français n'a que ça à foutre. Ce n'est pas normal que l'on envoie des policiers s'occuper d'artistes diffusant de la musique. Est-ce que ça vous va vraiment ? Que l'argent public, qui est votre argent, je le rappelle, soit utilisé pour aller tabasser des gens qui dansent ou même pour organiser un colloque contre le wokisme. Il s'agit ici de censure pure et dure. De censure de la création, de censure du corps, des corps. Car imaginez, si jamais on se rend compte que l'on peut danser et créer librement, partout, où on le souhaite. Imaginez que ceci soit applicable à d'autres domaines de la vie. Par exemple, le travail ou le savoir. La vérité ? C'est que je pense que cette liberté fait peur à un pouvoir qui ne cesse de se dire libéral. Libéral pour qui ? C'est effrayant pour une autorité de voir ses sujets danser librement autour d'elle. Et rappelons bien que la musique électronique n'est pas un cas unique. Le jazz aussi a été censuré à ses débuts pour des prétextes de lutte anti-drogue qui cachaient évidemment d'autres ambitions de censure. Si vous avez pu entendre mes deux précédentes chroniques pour cette même émission, vous comprendrez bien qu'on arrive ici à un point de convergence. Je vous parlais de trouver d'autres lieux, d'autres moyens de créer de la musique, mais aussi du pouvoir qu'ont nos corps qui dansent, du danger qu'ils peuvent représenter pour les conservateurs. La contrainte du corps est inscrite en nous dès notre naissance, en particulier pour les femmes. Alors des corps qui se libèrent par la danse, c'est contraire à l'ordre établi, c'est anticonformiste au sens le plus profond possible. Ce que montre ce type de dispositif juridique liberticide, c'est que la création libre est strictement encadrée. On tolère bien que les gens aillent s'abrutir en boîte sur des musiques merdiques de Jul ou Weshden, parce que les boîtes font partie du modèle, parce que Jul n'a rien de subversif, parce que rien de ça ne fait peur. Cela correspond même à des codes socio-économiques précis. On croit être en rébellion dans la fête tolérée, alors que celle-ci participe de notre conformité. Et comme le dit si bien le philosophe allemand Theodor Adorno, ce miracle de l'intégration, cet acte de grâce permanent de l'autorité accueillant celui qui ne résiste plus, c'est du fascisme.
Merci Pierre, encore une fois, quand on t'écoute, on a envie d'aller faire la révolution.
On a envie d'aller faire la teuf surtout. Par contre, sur les boîtes de nuit à la fin, moi je suis pas d'accord, hein, parce que c'est en boîte de nuit qu'est sonné le mouvement des rave parties de la French Touch. C'était dans les années 80, c'était les soirées respect. À 80-90, les soirées respect qui se déroulaient au Queen. À l'époque, le Queen était branché. Pour ceux qui sont déjà sortis sur les Champs-Elysées, j'imagine que ça vous dit quelque chose, non? Peut-être pas.
Non.
Pas vraiment, non. Les
moi,
boîtes, c'est
moi,
pas
j'en
trop
j'en
ton truc.
Parler, mais j'ai pas eu le temps de trop détailler. Mais effectivement, la French Touch, c'est un peu un truc un peu entre les deux justement, parce qu'on a à la fois des groupes comme Motorbass avec Étienne de Crécy ou même Cassius et Daft Punk
qui sont nés dans les boîtes de nuit.
Alors Étienne de Crécy, son premier, il le dit en interview, son premier crush de musique, vraiment sa révolution à lui, c'est d'être allé en rave party sur un rooftop à Paris, et c'est après justement que cette musique French Touch qui est née du coup à partir des raves, qui s'est exportée en boîte de nuit. Effectivement, c'est un entre-deux qui a fait beaucoup de mal aux gens qui
mais c'est ça qu'on n'a pas la même définition, parce que moi tu me dis rave party, je pense au teuf que je faisais quand j'étais adolescent, où on se retrouvait dans un champ avec un sound system, il y avait des camtars dans tous les sens, et c'est vrai que c'était un peu trash, un peu crade, et je sais pas si forcément ils cherchaient, ces artistes-là dont on saisissait le matériel, ils cherchaient forcément la reconnaissance des autorités. Peut-être qu'au contraire, ça les faisait marrer d'être anticonformistes et de vouloir constamment... Et est-ce que l'art ne naît pas forcément de la contrainte? Est-ce que si on avait... pas interdit ce mouvement-là, est-ce qu'il aurait existé? Est-ce que c'est peut-être pas grâce justement aux interdictions que l'on fait naître de nouveaux courants musicaux? Et il en va effectivement pour le jazz, mais je suis convaincu que... moi je pense peut-être plus à la littérature par rapport à ma formation, mais quand on pense à Victor Hugo, la bataille d'Hernani, c'était aussi contre-culturel, c'était révolutionnaire à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait classique. Peut-être que nous, quand on sera vieux à la maison de retraite, on écoutera Motorbass ou autre, je sais pas les chansons que t'as passées là, mais du son de teuf, et ce sera tout à fait classique, et on aura encore envie d'avoir une nouvelle révolution pour les nouvelles générations.
Ah mais je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que déjà la musique de teuf, effectivement, c'est de la musique qui n'a pas vocation à être conformiste, et que justement beaucoup de styles musicaux émergent face à la contrainte et à la norme, et justement s'essoufflent et se vident un peu de leur sens une fois qu'ils sont institutionnalisés. C'est le cas du rock, c'est le cas du jazz, c'est en train de devenir le cas de l'électro. Moi, je suis prêt à parier que le rap d'ici 10-20 ans, ça y est, ce sera un peu ringard, ce sera un truc de papa. Et donc,
ça l'est déjà un peu. Moi, quand j'ai vu le show du Super Bowl, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous voyez ce que c'est le Super Bowl?
Oui,
le championnat de football américain. Bon, il y a, lors de la finale, pendant la mi-temps, un spectacle qui est organisé, c'est sans aucun doute le plus grand concert de l'année qui est à voir chaque année. Et cette année, c'était les artistes qui étaient sur scène. Ça vous dit rien du tout? Il y avait Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent et Snoop Dogg, qui chantait les grands tubes des années 2000. Alors moi, j'étais très heureux, parce que clairement, entendre Lose Yourself à fond dans le stade de Los Angeles, c'était quand même quelque chose à voir. Mais c'était que des quinquas, c'était que des vieux. Et je me suis dit, peut-être que là, on est en train de vivre un basculement où effectivement, le rap passe à autre chose.
On reprend un peu la main puisque Soleil, Adriana nous a rejointe. Donc maillot, crème solaire, elle nous emmène avec nous en vacances à Valence.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Vous êtes bien sur la boîte vocale de RSU. Tous nos fabuleux animateurs sont actuellement occupés. Après le bip, l'appel vous sera facturé un sourire par minute.
Fond de votre message, si vous souhaitez le modifier, faites le dièse.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de RSU, et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre carte postale estivale. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un voyage ensoleillé en bord de mer.
Muchas gracias por su atención y disfrute del vuelo.
Thank you for your attention and enjoy your flight today with Vueling.
Estamos llegando a nuestro destino.
Ça y est, l'avion entame sa descente vers Valence. Enfin, j'observe la vue depuis le hublot. Ah, la mer qui s'étend à perte de vue. Ah, et puis le port, entouré de ces cruches gigantesques. Ah, et la cité des arts et des sciences. Oh, et les touriards qui entourent la ville. C'est magnifique. C'est vraiment beau vu d'en haut. Un sentiment m'envahit. Un frisson presque. Celui d'être de retour chez moi. Mon second chez moi. À peine les premières marches de l'avion descendues, je sens une chaleur envahir le couloir de sortie. Les températures sont annoncées. 30 en extérieur, minimum. Et ça toute la semaine. Je file récupérer ma valise et me voilà dans le métro. J'y suis ! Enfin ! Pour la 8e fois. Eh oui. Et j'ai toujours cette même excitation lorsque je retourne dans cette ville. C'est fou. Cette même envie de parcourir les rues, de retrouver le soleil, d'écouter les vagues, d'aller voir la mer. Sûrement parce que pour moi, c'est une ville chargée de souvenirs. Non, mais tout de même, cette ville, je sais pas comment vous dire, elle a un truc. Plus les minutes passent, plus je m'impatiente. Station défile, on est presque arrivé. C'est là. Je descends rapidement du métro, emprunte l'escalator, monte les quelques marches restantes. Ça y est! Le soleil jaillit, la chaleur retombe sur mes épaules. J'entends parler les gens autour de moi. Ah, ces sonorités, ça m'avait manqué. Je monte dans un bus et 15 minutes plus tard, me voilà devant l'immense étendue de sable de la plage de la Malvarosa. Je m'avance sur le sable chaud, un peu trop chaud même, beaucoup trop chaud. Je me mets à courir, vite, le plus vite que je peux, jusqu'à poser ma serviette et m'installer. Ah, la plage. Le meilleur endroit du monde, vous ne trouvez pas? Le son des vagues est si apaisant. Posé là devant cet horizon infini, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que j'ai vécu dans cette ville. Et puis en même temps, je vis le moment présent. Simplement, je m'allonge et regarde le ciel bleu. Complètement bleu. 18h déjà? Bon, eh bien, je ne vais pas tarder à rentrer. Mais avant cela, séance bronzage au soleil. On est vendredi, la plage est encore calme. Mais j'aperçois des groupes se rassembler petit à petit au bord de l'eau. S'asseoir sur le sable pour profiter d'une belle soirée d'été, certainement. Les uns sortent leur guitare, leur voix. Les autres, leur fameux reggaeton, qui résonne littéralement aux quatre coins de la plage. Ça me rappelle quand on y allait après les cours. Nous, en plein week-end, avec nos bières, et on regardait le soleil se coucher. Qui, soit dit en passant, n'est pas côté mer, mais les couleurs n'en sont pas moins splendides. Cette couleur rosée qui vient toucher l'horizon bordé de bleu. Plus loin, j'en vois qui joue au volet, comme d'habitude. Oh, c'est bien joué ça! Ça me donne presque envie de les rejoindre. Allongée sur ma serviette, les rayons de soleil bientôt orangés, je m'assoupis quelques instants. Au loin maintenant, j'entends rire, j'entends chanter, j'entends la vie qui me murmure de rêver. Et ben voilà, c'était un petit aperçu de mes vacances. Sur ce, on se recapte à la rentrée. Ouais, allez. Bisous RSU.
Waouh, merci Adriana de nous avoir un peu ramené au soleil, à la plage, dans les boîtes, ça fait grave du bien.
Avec plaisir. C'était...
Ouais, c'était un joli voyage.
Mais tu dis que tu allais après les cours aussi, t'as fait un Erasmus à Valence ?
Ouais, j'ai fait un Erasmus et j'y suis retournée à toutes les vacances après, en fait.
Ok. Parce que...
Ouais, non, mais j'adore cette ville, enfin, j'ai plein d'amis là-bas, c'est... Puis il fait beau, il fait chaud.
Tu m'étonnes.
Donc ouais, ça fait du bien de faire des pauses comme ça dans cette ville.
Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
Adriana, on t'écoute.
Oui, alors on va parler de rap. En effet, c'est bientôt le retour de Sorbonne in Music sur les ondes de Radio Sorbonne Université. Alors je sais que l'émission vous a manqué, donc pour vous donner envie, pour attiser votre curiosité, je vous propose l'extrait d'une interview inédite réalisée très récemment dans le studio de la Sorbonne. J'ai donc interviewé un rappeur du nom de Timepo, étudiant de la Sorbonne, et je lui ai demandé de nous en dire plus sur un de ses titres phares, Deux Infinis, issu de son premier EP Triptyque, sorti en 2019. Il y a par exemple la chanson Deux Infinis qui m'a interpellée, où tu dis « Avoir la tête dans la lune, ça permet de prendre du recul. Je vois le monde depuis Saturne à chaque envolée nocturne. » Là, on voit que c'est quand même assez... c'est travaillé quand même. Il y a de la rime et il y a un rythme particulier. Donc, tu dis aussi que ce monde est trop petit, trop grand à la fois, perdu entre deux infinis, vertige d'un vide qu'on ne voit pas. Alors, c'est comme ça que se sent un artiste, finalement. Est-ce que c'est aussi cette envie de s'évader à travers la musique, ou de faire ressentir ça à celui qui t'écoute?
Ouais, je visais... En écrivant ça, je visais pas... que les artistes, je visais, j'avais la prétention en l'écrivant de parler au nom de tous, du fait qu'on puisse se sentir qu'on puisse sentir grandiose le matin et le soir complètement dépassé par les événements, et avoir une sensation de maîtrise qui est toujours éphémère, le fait qu'on soit comme je le dis, vertige d'un vide qu'on voit pas. Il y a une idée de coincer entre deux infinis, un infiniment petit sur lequel on pourrait presque tout casser sans le faire exprès, et sur lequel on a beaucoup de contrôle, et un infiniment grand qui juste nous dépasse, et en fait, quoi qu'on fasse, on n'y changera rien. Et voilà, c'est un peu cette opposition-là que je voulais traduire dans cette chanson.
Eh bien, on va écouter tout de suite Deux Infinis, ça te dit ? Tu vas nous l'interpréter ?
Avec plaisir.
C'est parti.
Que le monde est petit, Dieu
dit cela. Hey, Timepo pour Radio Sorbonne Université. Perdu entre deux infinis, vertige d'un vide qu'on voit pas. Ce monde est trop petit et trop grand à la fois. Perdu entre deux infinis, vertige d'un vide qu'on voit pas. Le sens de la vie, moi j'en sais rien, c'est peut-être simplement lui en chercher un. Si on ne suit qu'une direction sur terre, de façon on tourne en rond. Mais si l'on fait la girouette, que le vent chasse nos certitudes. Une vie à mille facettes, à qui casse les habitudes. L'âme qui erre tue le temps, l'âge perdure des années. La vie sert le mouvement, l'amertume laissée aller. Je crois qu'on ne voit que ce que l'on croit, ça je le sais, ou bien je l'ai vu. Je dis ça je sais pas, enfin je sais plus. Tu m'as compris, moi non plus. J'ai toujours cru que j'étais perdu et que c'était mal. En fait tout le monde se cherche, personne se trouve.
C'était Deux Infinis par Timepo, merci.
Avec plaisir.
Alors j'ai remarqué qu'il y avait quand même un gros travail sur les clips. Donc les clips qui font partie vraiment de ta signature artistique, j'ai l'impression, parce qu'il y a un vrai travail sur la réalisation, il y a un travail sur les couleurs, les lumières, j'ai l'impression que c'est assez complémentaire de tes titres finalement. Donc comment est-ce que tu le vois toi, le clip, est-ce que c'est important pour toi, est-ce que c'est toi qui les penses même?
Ouais, alors effectivement en fait donc c'est bien moi qui les pense, et j'en profite pour placer que là du coup sur ce premier EP j'ai clippé l'intégralité des sons, et en fait j'ai découvert ça sur le tard, je pensais pas que ce serait un média qui m'intéresse, mais en fait on peut faire dire tellement plus de choses à une chanson par le visuel, on peut venir appuyer certains mots, certains sens, et donner d'autres sens en mettant des images auxquelles on s'attendrait pas. Voilà, je le vois comme quelque chose de très complémentaire.
Bah, du coup, j'ai cru comprendre que tu avais pas mal de projets pour la suite, justement sur les clips. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Ouais, bien sûr. Donc, sur les 7 titres de ce premier EP, il y a Benoît qu'on a décidé de clipper avec une super réalisatrice qui s'appelle Coraline Benetti.
petite dédicace à elle. Et on a fait un projet monumental, vraiment, ça s'est étalé sur 2 ans, on a tout donné, on s'est éclaté à le faire avec une 60aine de personnes. Et pour rendre hommage à ce titre et pas faire un clip parmi d'autres, j'ai décidé d'en faire un EP complet, de pousser l'univers plus loin et en partant de ce clip, développer tout un concept avec 2 morceaux avant, 1 morceau ensuite, mais voilà, qui développe l'univers de Benoît. L'EP s'appellera Benoît & Co. Il sort début mars là. Et voilà, j'en suis très fier. C'est un peu, c'est la première fois que une petite chanson que je pensais même pas mettre à la base dans l'EP prend un tel engouement et du coup ça m'a invité à construire encore plus l'univers autour.
Vendredi soir, Benoît Finita, Pétard Pénard, Barle Soula. Il s'est trouvé une bonne raison de pas finir tête dans la cuvette. Sa petite femme est à la maison pour leur 10 ans, il va lui faire ça.
Et pour continuer dans cette vibe, c'est le moment d'une petite pause musique. On écoute Overnight du groupe australien Parcells. C'était Overnight de Parcells dans Cours d'honneur, le magazine culturel de la Sorbonne sur Radio Campus Paris. On a déjà parlé de techno avec Pierre, de vacances à Valence et de rap avec Adriana. Et maintenant, on passe au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
L'abstention serait-il le premier parti de France des jeunes ? À la dernière présidentielle, l'abstention est devenue officiellement le premier choix des primo-votants. Lors des élections départementales et régionales de juin 2021, 87% des 18-24 ans ne sont pas allés voter au premier tour. Au second tour de la présidentielle de 2017, ils étaient 31% à s'abstenir, contre 25% tout âge confondu. Un chiffre record qui pourrait de nouveau être battu pour les 10 et 24 avril prochains. Pourtant, la jeunesse semble être engagée, à en croire les marches pour le climat, les post-féministes, le débat sur le genre, le racisme, les violences sexuelles, la cause animale. Cette jeunesse, souvent plus diplômée que leurs parents et grands-parents, surexposée à l'information et aux images, ne croit plus que l'acte de voter puisse être utile. On vous a demandé ce que vous en avez pensé dans Cours d'honneur de la Sorbonne.
Pour moi, on se retrouve pas dans l'offre politique, en gros. C'est que ça, tout est caricatural, les extrêmes qui prennent le dessus, et puis on se retrouve pas. Et le mode de scrutin aussi qui fait que il est très, il va favoriser un candidat au premier tour qui aura une minorité finalement dans la population. Et mais même s'il se retrouve avec la majorité officiellement et qui dégoûte, je pense, un petit peu les gens. Justement, de par le mode de scrutin, les candidats dits minoritaires qui nous paraissent plus proches de nos convictions se retrouvent de fait, de par le mode de scrutin, effacés. Et nous offrent un deuxième tour, je l'espère, pas aussi cauchemardesque qu'on peut l'imaginer.
Le fait que certains politiques ne respectent pas les promesses de leur programme. Peut-être les lois anti-cumul des mandats. Peut-être qu'on n'explique pas assez aux citoyens les bases, à quoi sert le Parlement, à quoi sert le président, pourquoi ses pouvoirs sont limités, pourquoi le Parlement est important. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'émissions, à part sur la chaîne parlementaire, il pourrait y avoir des petits clips. J'ai vu qu'il y avait une application, donc j'ai testé d'ailleurs, qui était faite pour que les jeunes, enfin pour que tout le monde puisse, je ne sais pas si vous la connaissez cette application, on vous propose des affirmations qui sont dans des programmes et vous dites si vous êtes d'accord ou pas. Et à la fin, donc c'est quand même assez long à faire, mais à la fin on vous dit avec quel candidat vous êtes le plus proche. Alors des fois il y a des surprises.
Alors, est-ce que vous êtes... Enfin, je sais pas si vous avez testé l'application ou...
On peut quand même noter qu'il y a un étudiant à la Sorbonne qui regarde la chaîne parlementaire. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Déjà qu'il n'y a plus personne qui regarde la télé, mais alors si en plus il regarde la chaîne parlementaire, je trouve ça fantastique. On peut le remercier.
Ouais.
On
doit avoir des après-midi incroyables.
On n'a vraiment pas fait de cours à la fac. Quoi. Ouais. Genre, ça me laisse du temps. Mais justement, ce temps, vous l'utilisez pour vous informer sur la politique et sur les élections à venir?
Ouais. Ouais. Moi je m'intéresse pas mal à ça. D'ailleurs, l'application, je l'ai pas testée, mais j'en ai entendu parler. Donc...
Tu vois laquelle c'est?
Oui, c'est Élise.
Élisée, ouais. Élisée, je sais pas trop comment on dit.
Qui est-ce qui l'a faite, cette application?
C'est des jeunes.
Ah, ok.
Alors, qui se disaient indépendants. Alors, il y avait notamment. Alors, j'ai plus les noms. Je sais qu'il y avait Gaspard G qui était dans l'équipe.
Je sais pas les noms, moi. Mais...
Qui est assez connu sur Twitch.
Ok.
Mais ça vient des jeunes. Et en fait, il y a eu un gros problème parce que l'application, quand même, c'était une source de données, mais ouais. Monumentale. Et donc, pour les politiques, c'était quand même une espèce de magot que tout le monde voulait choper. Et là, ils sont repassés un peu en open source au niveau du code. Et ouais. Ils ont dit que toutes les données étaient supprimées automatiquement. Mais oui, à la base, c'est une initiative. C'est un peu ces nouveaux outils politiques, tout comme la primaire populaire, etc., qui vient de...
Mais c'est pour vulgariser aussi un peu les jeunes, justement, qui s'intéressent de moins en moins, on va dire, à la politique. On m'a dit que c'était quand même un peu simpliste, parfois. C'est juste oui ou non. On aimerait que ce soit un peu plus nuancé, mais...
Ça fait un peu touche pas à mon poste, on vote pour ou contre. Je sais pas si vous voyez chez Hanouna, non. Ouais. Bon, faut regarder un petit peu la télévision, parfois.
Ouais, mais en vrai, je trouve ça bien, dans le sens où c'est même pas forcément que les jeunes sont plus intéressés par ça. C'est juste qu'en fait, la politique et les débats en ce moment, c'est tellement devenu juste une source de spectacle qu'on a du mal à démêler, en fait, les vraies infos de ce qu'on voit et de ce qu'on nous balance tout le temps sur les médias qui sont, en fait, hyper éloignés des débats hyper importants, quoi.
Ouais, pour ça, il y a un truc que j'ai fait avant de voter à la primaire populaire. C'est justement.
T'as voté à la primaire populaire?
J'ai fait toutes les primaires.
Félicitations. Même la primaire de droite?
Non, pas celle de droite.
Ah, par toutes les primaires alors.
Non, j'ai pas. Bah non, il fallait.
Il fallait adhérer.
Un parti, ce que je ne voulais pas faire, surtout ce parti-là. Mais bref, le truc, c'est effectivement, j'ai l'impression que les candidats deviennent genre des personnages médiatiques et c'est ce que disait aussi un des mecs dans le micro-trottoir, c'est que y a un problème au niveau du mode de scrutin et du fait que genre on porte au nu une seule personne qui sera l'homme ou la femme providentielle. Et du coup, un truc que j'aime bien faire, c'est aller regarder les programmes, en fait. Pas écouter forcément les gens directement, mais se taper, de lire. Parfois c'est long, parfois c'est un peu chiant, mais comme ça, enfin, on voit plus ce que ça peut être au-delà du personnage qui est dressé par les médias, parce que évidemment les politiques aussi répondent aux questions qu'on leur pose, parfois à côté quand même, mais...
Non, mais c'est clair qu'il faut s'en détacher, quoi. Enfin,
après, les politiques apportent des débats qu'ils veulent voir émerger. On voit notamment que parmi l'étude qui est sortie ce matin sur France Info et Le Parisien aujourd'hui en France, qui explique qu'un jeune sur deux a envie d'aller voter le 14 et 22 avril prochain.
10 et 24.
Avril prochain, que parmi les sujets qui les intéressent le plus, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'accès au logement et c'est peut-être moins les questions d'immigration, les questions qui occupent beaucoup de place, le wokisme et ces débats qui sont amenés par les politiques. Donc est-ce que ce sont les médias qui mettent en place les débats qu'on voit émerger dans la sphère publique, ou est-ce que c'est les politiques qui veulent mener la campagne sur ces terrains-là?
Je pense qu'il y a un truc un peu de poulet d'œuf, mais j'avais trouvé ça frappant, par exemple, au débat de la primaire écologiste qu'on avait regardé avec Pierre. Le fait que il y a certaines questions qu'on posait à des candidats qui n'avaient absolument rien à voir, enfin genre à une primaire écolo, on posait des questions à Sandrine Rousseau sur
notamment Nathalie Saint-Cric quand même.
Voilà, Nathalie Saint-Cric qui posait des questions.
Chef du service politique de France 2.
Voilà, c'est ça. Enfin, des trucs qui n'avaient rien à voir avec les propositions qu'elle portait, alors que d'autres choses qui pour elle étaient plus intéressantes et qui prenaient plus de place dans le cadre de sa campagne n'étaient pas évoquées. C'était pas les questions qui sortaient en premier. Donc,
oui, mais parfois ils font pas un peu exprès. Enfin, parce que par exemple l'autre jour il y avait Yannick Jadot sur la 2. à l'émission politique là, et à la fin il leur pose toujours des questions un peu qui n'ont rien à voir. Ils ont posé la question sur la cravate par exemple, je sais pas si vous avez vu.
Oui.
Ils portent une cravate, portent pas une cravate, oui, c'est ce que ça représente plus. Enfin, il a plus la figure d'un président avec une cravate que lorsqu'il n'en a pas. Alors bon, c'est pas un débat. Enfin, je veux dire.
Bon après le pouvoir et l'apparat du pouvoir, c'est quelque chose qui existe depuis. Depuis le XVIIe siècle.
Central pour moi, en tout cas personnellement, je veux dire, ça change pas. Ça change rien dans ma tête qu'il ait une cravate ou pas, quoi. Enfin,
ouais. Ouais. Surtout que ça met un peu une distinction entre homme et femme, parce que genre l'homme représente le pouvoir s'il porte une cravate, et la femme, en fait, on s'en fout. Donc déjà, au niveau vestimentaire, je trouve que ça marque une différence.
Mmh. Bon, après, les femmes qui se ramènent en chemise à fleurs à l'Assemblée nationale, ça fait jaser aussi. Hein, et pour le coup, on prend beaucoup moins ça. Je sais pas si vous avez la ref ou pas.
Si, Duflo qui s'est sifflé dans l'Assemblée parce qu'elle a mis une robe à fleurs. un bel exemple de sexisme en politique.
Voilà. Non, c'est vrai. Après, sur le fond, est-ce que les jeunes vont voter ou non aujourd'hui ? Il y aura sans doute beaucoup d'abstention. On sait aussi que le premier parti chez les moins de 30 ans aujourd'hui, c'est pas l'abstention, le premier parti quand on vote pour un parti aujourd'hui chez les moins de 30 ans, c'est, vous savez pas, c'est le Rassemblement National aujourd'hui. Quand les jeunes votent. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, il y avait un numéro spécial du Monde, du magazine du Monde, il y a une semaine, qui racontait qu'aujourd'hui, les jeunes ne votent plus, mais ils s'engagent. Ils s'engagent autrement. C'est que l'engagement, aujourd'hui, il est plus collectif, il est individuel. Où auparavant, on pouvait adhérer à un parti en fonction de sa classe, parce qu'on était ouvrier, donc on allait voter à gauche, on était issu de la bourgeoisie, donc on allait voter à droite, et qu'aujourd'hui, ces notions de classe, elles s'effacent derrière l'individu, et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus individuel. Et c'est pour ça qu'on considère que glisser une enveloppe dans une urne un dimanche, eh bien, ça a autant de sens que de cliquer pour une pétition sur change.org. C'est des choses qui peuvent être comparables, où l'engagement, il est très individuel, et on le voit par... On estime que le militantisme, c'est partager des posts féministes sur les réseaux sociaux, etc., qu'on lutte pour son genre, on lutte pour son ethnie, on lutte pour des causes qui nous touchent beaucoup plus que pour des destins collectifs, on va dire.
Ouais, mais ça peut... Enfin,
ça peut être les deux. Après.
Ça peut être les deux. Moi, je pense aussi que ça peut poser problème, parce que la lutte politique, si on la pense à l'échelle individuelle, on sera quand même beaucoup moins efficace que si on se rassemble pour avoir un vrai poids et des directives claires, parce que... Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on a, du coup, maintenant, avec... tous ces trucs d'engagement individuel, c'est un foisonnement de plein de petites contestations dans tous les sens qui n'arrivent pas à être centralisées et à prendre vraiment de l'épaisseur, à vraiment avoir un impact.
Cette espèce de rassemblement potentiel, je pense qu'il peut arriver dans les années à venir, parce qu'en fait déjà ça prend un temps fou, mais de juste militer pour ce qui peut nous concerner. Alors s'intéresser à tout ce qui se passe ailleurs, etc., enfin, ça demande beaucoup de temps.
Ouais, c'est compliqué aussi. Enfin, il y a des choses qui sont pas difficiles à... Enfin, qui sont pas faciles à comprendre.
Pardon. Ouais.
Petit tour de table, qui va voter ? Qui est certain d'aller voter ?
Moi, absolument.
Ouais, moi aussi.
Tout le monde est certain d'aller voter.
Mais
est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ?
Oui.
Non, à peu près.
C'est bien, toutes les sensibilités sont représentées. Oui et non, à peu près.
Bon, dans tous les cas, merci pour cette discussion. On va se poser 2 minutes pour repenser à tout ce qu'on a dit en écoutant D'Air de Gorillaz.
It's D'Air.
C'était Dare de Gorillaz, vous êtes toujours dans Cours d'honneur, l'émission de RSU sur Radio Campus Paris. Et maintenant, c'est à ton tour, Olga. À mi-chemin entre la fable politique et le fantastique, tu nous racontes le film Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop.
Prendre le large et partir à la découverte de la jeunesse de Dakar, fixer l'écran de cinéma comme la ligne de l'horizon, c'est ce que propose le long-métrage Atlantique de Mati Diop. Je me souviens, il y a un an, m'être lancée dans le visionnage de ce film franco-sénégalais sous les conseils de mon prof de cinéma. À l'image du titre du film, ce dernier m'a lentement engloutie par sa musique envoûtante et totalement envahie par ses thématiques inattendues. Depuis, je crois n'avoir rien vu de comparable, et peut-être cela n'arrivera-t-il jamais. Atlantique, ça parle d'un groupe d'ouvriers impayés depuis des mois qui décident de prendre la mer et de quitter la banlieue dakaroise vers un avenir meilleur. Atlantique, ça parle aussi d'une histoire d'amour entre Souleymane, l'un des travailleurs qui partira pour les côtes espagnoles, et Ada, pourtant promise à un autre homme. Dans l'une des premières scènes du film, les deux adolescents sont réunis et le spectateur est témoin de leur amour naissant. Cependant, un troisième protagoniste s'immisce dans le champ contre champ du regard amoureux, l'océan. Sa présence pèse et on comprend déjà qu'il aura une influence capitale dans le récit. Ada fait même remarquer à Souleymane que celui-ci ne la regarde même pas tant il est omnibulé par l'Atlantique. Cette même entité qui sera personnifiée tout au long du film, qui martèlera les images du bruit de ses flots et qui arrachera à Ada l'homme qu'elle aime. Car oui, Atlantique est également le récit d'une disparition en mer, celle du groupe d'ouvriers qui n'atteindra jamais la rive. Plus exactement, le film raconte par l'absence. Ainsi, à la manière de Pénélope, attendant patiemment le retour d'Ulysse, Ada et le reste des femmes de Dakar demeurent dans le souvenir de cette jeunesse fantôme, disparue en mer à la recherche de leur Eldorado. La réalisatrice Mati Diop souhaitait raconter une réalité qui a frappé cette génération sénégalaise il y a quelques années, tout en échappant cependant à ce qui pourrait être attendu d'un tel film. Il ne s'agit pas simplement de raconter les hommes qui partent et les femmes qui restent. Ses sœurs, ses mères, ses amoureuses sont également au cœur du récit, en tant qu'elles continuent à vivre malgré tout. Ce groupe sororal sera filmé en train de faire la fête, de rire et de s'accomplir tant bien que mal dans leur individualité propre. Et bien qu'elles échappent à la figure de celle qui attend, ces femmes porteront également la voix des disparues. Le terme de jeunesse fantôme qui est utilisé par la cinéaste elle-même ne pourrait pas correspondre davantage. Car à un moment, Atlantique vous surprend et glisse dans le surnaturel. La luminosité et les couleurs changent, une sorte de néon vert vient s'ajouter à la musique et plonge le spectateur dans une torpeur dont il ne pourra s'extraire. À la nuit tombée, devenus véritables djinns, les femmes de la ville se voient comme possédées par les âmes des hommes privés de sépulture. Quant à l'océan, cet Atlantique qui donne son nom au film, sa présence magnétique hante le spectateur et son caractère mythologique l'érige en véritable portail entre le monde des morts et le monde des vivants, celui des hommes disparus et des femmes portant leur mémoire, celui des âmes errantes et des corps hantés. Mati Diop rend tangible la présence des naufragés grâce au cinéma. Souleymane réapparaît dans le reflet d'un miroir et le spectateur ressent presque sa présence lors de la contemplation de l'océan filmé en plan fixe. À la manière du flot incessant des vagues, les récits polyphoniques parviennent au spectateur sans en oublier le caractère divers et complexe. L'odyssée des hommes est portée par le récit de la vie des femmes et la réalité du naufrage, bien trop souvent réduite à des statistiques par les médias, prend ici le visage de celle qui reste.
Merci Olga. Encore une fois, tu m'as bien touchée. C'est chouette. Le pavé de culture.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
Le pavé de culture, les savoirs inutiles, donc complètement indispensables de Thomas. Chaque mois, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne. Pour ce deuxième épisode, voici le SOS d'un orgue en détresse.
Eh oui, tous les auditeurs bien avertis qui nous écoutent savent très bien de quand date la Sorbonne. Eh oui, 1253, vous le savez très bien, 13e siècle, donc sous l'égide de Robert de Sorbonne, qui construit à l'époque seulement un collège de théologie. L'école pour le grand nombre, c'était la volonté de Charlemagne, à l'époque carolingienne. Notre Sorbonne est digne héritière de cette idéologie, permettre à tous d'accéder au savoir.
Qui a
eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne.
On construit donc un lieu pour accueillir, loger tous les jeunes aspirants théologiens qui veulent se faire moines. Paris était depuis le XIIe siècle une des villes qui comptait le plus grand nombre d'étudiants au monde. L'université de Paris voit donc le jour sous l'impulsion de Philippe Auguste. Oui, celui qui avait posé les premiers pavés à Paris. Rappelez-vous ma dernière chronique. Voilà, je sais que ça suit au fond. Donc on construit plusieurs bâtiments disparates qui vont finir tous par être détruits et un homme viendra mettre de l'ordre pour aligner
c'est
tout ça.
C'est un bordel.
Richelieu, himself, étudiant puis proviseur à la Sorbonne, cardinal et quasi premier ministre. Et au fond de la cour d'honneur s'élève le dernier vestige de la Sorbonne de Richelieu au XVIIe siècle. Une chapelle construite à sa demande et à ses frais dans un style antique très en vogue à l'époque. À l'intérieur, une surprise, le Saint des Saints, ce à quoi Richelieu tenait le plus à la Sorbonne, son propre mausolée. Oui, la chapelle abrite le tombeau de Richelieu où reposent ses restes. Un tombeau de marbre surmonté d'un chapeau rouge de cardinal. Ainsi fut nommé inhumé Richelieu au cœur de la Sorbonne. On raconte qu'il ne reste que son crâne d'ailleurs, puisqu'il y a eu les vicissitudes de la Révolution française. Le corps de Richelieu a été exhumé, maltraité, sa caboche a eu une sacrée destinée. Quand on profane le tombeau, oui, le tombeau de Richelieu profané à la Révolution, Alexandre Lenoir est là, le fondateur du musée des monuments français, celui qui a tenté de sauver les sépultures des rois face à la fureur des révolutionnaires, était bien présent quand on exhume Richelieu momifié.
Aujourd'hui, la momie, ah, vous nous voyez venir, qui dit momie, dit énigme, pyramide, pharaon. Ben non, pas cette fois-ci, enfin... Pas seulement.
Et non, pas seulement. Il raconte que la momie de Richelieu avait les pommettes saillantes, les lèvres minces, le poil roux et les cheveux blanchis par l'âge. Un des révolutionnaires lui coupe la tête et l'exhibe comme un trophée. Il faudra attendre 1895 pour que la tête et sa célèbre barbiche de Richelieu retournent dans son cénotaphe. Le cénotaphe, c'est comme ça qu'on appelle un tombeau sculpté dans le marbre et qui a été achevé l'année précédente. Il n'est pas tout seul, Richelieu. Il est enterré avec 27 membres de sa famille qui reposent sous la coupole. Mais aussi, c'est moins connu, il y a 12 enseignants qui reposent dans la crypte, sous la chapelle, dans la Sorbonne. Des enseignants membres de la Résistance qui ont été morts fusillés ou morts dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi 5 lycéens, des lycéens du lycée Buffon, qui ont activement résisté et finirent par être attrapés, jugés et fusillés par la Luftwaffe. Bon, j'ai bien conscience que vous vous demandez à quel moment je vais finir par parler de l'instrument le plus célèbre de la Sorbonne, l'orgue susnommé, mais je ne pouvais pas résister à vous raconter ce qui se trouve sous cette chapelle, qui est interdite au public, donc aucun d'entre nous, théoriquement, ne l'a jamais visité, enfin, sauf moi, mais ce n'était pas forcément très légal. Bref, on en racontera tout ça une prochaine chronique. Le sommet du dôme de la chapelle de la Sorbonne domine le quartier latin de ses 50 mètres de haut, et recèle l'instrument non transformé le plus ancien de la capitale, un orgue. L'instrument fut inauguré le 10 juillet 1825. À l'occasion de la restauration de la chapelle, il a été érigé par Pierre-François d'Allery, ministre de Louis XIII, proviseur de la Sorbonne, et par son fils. L'orgue est aujourd'hui condamné au silence. Injouable depuis le départ de son maître en 1859, il est pourtant le témoin le plus authentique à Paris de la facture d'orgue de l'Ancien Régime. Il est homogène, il pourrait être restauré, d'autant que la chapelle est dans un très mauvais état. C'est pour ça qu'on ne peut pas y rentrer pour des raisons de sécurité. Il y a eu la tempête de 99 qui a fait des ravages, la moitié des tuyaux de l'orgue ont été volés, et surtout, eh bien, la dispersion des responsabilités n'arrange rien. Puisque la chapelle appartient à la ville, mais c'est le rectorat qui en contrôle l'accès, l'État reste engagé par le classement des monuments historiques. Donc on a un orgue qui n'a joué dans son existence que 34 ans, mais qui est un instrument unique, monumental, historique, témoin d'un passé perdu dont la rénovation n'est même pas encore dans les tuyaux. La bête ne dort peut-être que d'un œil. Depuis un siècle et demi, on n'entend plus son souffle, mais les tuyaux pourraient bien résonner à nouveau, son clavier grippé repartir et ses soupapes répondre encore au puissant appel de l'histoire. Et pour entendre triomphalement ces jeux de Cromorn, de Nazar, de Larigot, bon, je vais pas vous faire un cours sur l'histoire des orgues, mais sachez en gros qu'il existe deux grandes familles, l'orgue classique du XVIIe, XVIIIe siècle, avec une grande variété de sonorités, et l'orgue romantique du milieu du XIXe siècle, qui cherche davantage à imiter l'orchestre symphonique. Cet orgue-là est moins clinquant et plus intime. Celui qui se trouve à la Sorbonne se glisse donc pile entre ces deux courants. Une remise en état pourrait nous permettre de découvrir tout un répertoire aujourd'hui oublié, inconnu, puisque jouer un morceau sur tel ou tel orgue change toute la sonorité. Bon, pour terminer, je vous donne le prix de la restauration de cet orgue. Il faudrait à peu près un demi-million d'euros. C'est le prix d'un rond-point moyen en France. Voilà, vous me voyez en train de faire des tours autour du rond-point, là, avec ma bagnole et mon klaxon. Un demi-million d'euros.
Bon, après ce petit tour de rond-point, on va faire un petit point. Ce soir, on a côtoyé des criminels du 19e. Pierre nous a emmenés en free party. On a lézardé sur la plage à Valence avec Adriana, écouté l'Atlantique avec Olga. Puis on a traîné dans les vieux recoins de la Sorbonne et sur des ronds-points avec Thomas. Bref, avant de se quitter, c'est peut-être le moment de prendre une petite douche avec Nathan.
Sous la douche.
Oh, mais vas-y, ça me saoule.
Sitôt. Tu commences vraiment si tôt dans la journée à te plaindre.
Non mais là c'est relou, j'en peux plus, vraiment c'est trop.
Eh ben ça ressemble à une crise existentielle. Ça a l'odeur d'une crise existentielle. Je pense que c'est une...
Comment je vais faire pour m'acheter du parmesan moi là, hein?
Du
parmesan.
Mais il se fout de ma gueule lui. Ton problème là c'est le parmesan. Si encore c'était l'odeur de parmesan que tu te traînes depuis une semaine, je dirais pas. Mais je crois pas que ce soit le problème.
Non mais je voulais me faire des bonnes petites pâtes carbo et j'ai plus de parmesan.
Waouh, quel problème. Triste sire, vous devriez envoyer une missive avant midi pour que le coursier puisse délivrer votre requête avant la fin du mois.
C'est marrant ça. Pendant une seconde, j'ai cru que t'étais drôle. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pensais pas à toi.
Ça devait être ton reflet. C'est sûr que ça, c'est un motif pour se rendre la gueule.
Ça, c'est petit.
Bref, auriez-vous considéré l'optique dans laquelle vous iriez acheter votre parmigiano reggiano au magasin, monsieur?
Bah, c'est ça le problème.
T'as oublié où est le magasin? Ah bah, je savais qu'il te manquait des cases, mais à ce point...
Non, mais j'ai plus de sous. Pas de sous, pas de parmesan. Pas de parmesan, pas de carbo.
Pas de bras, pas de chocolat, oui, on connaît. Bah, prends-le.
Le prendre? Genre, comme ça. Attends, t'es sérieux, là?
Bah, ouais.
Mais ça va pas, la tête.
Oui, c'est ce que je me dis tous les matins quand je te vois.
Non, mais... Le parmesan, il faut le payer. Enfin, sinon, en fait, c'est du vol.
Oh, tout de suite. Le vol, c'est relatif.
Bah non. À partir du moment où tu payes pas ce que tu prends, c'est du vol.
Oui, mais je veux dire... Ce avec quoi tu payes, l'argent, ça n'a de la valeur que parce qu'on a choisi de lui en donner.
Hein?
Bon, on va faire simple pour toi. Les pièces et les billets dont on se sert ne valent pas ce qu'on leur attribue comme somme. Une pièce de 1 euro ne vaut pas, matériellement parlant, 1 euro. En réalité, ça coûte quelques centimes à produire.
Quoi? Mais je comprends rien.
L'argent, c'est simplement une question de confiance. C'est notre monnaie d'échange parce qu'on lui donne tous une valeur qu'on a décidée en commun.
Je crois que je commence à comprendre.
Si pour chaque personne dans le monde, l'argent n'avait pas la même valeur, ce serait absurde. Pour quelqu'un, ça pourrait être quelque chose de très précieux, tandis que d'autres s'en taperaient. Mais au contraire, ils donneraient de la valeur à du quinoa, par exemple.
Ah, mais comme le blé, en fait. Comme le blé au Moyen-Âge.
Waouh, t'es de moins en moins bête, toi, c'est sidérant. Hein.
Bah, si tu m'apprenais plus de choses comme ça, au lieu de toujours m'insulter, là...
Oh, bichette. Bon, allez, décampe, c'est l'heure, là. Déjà que t'es en retard.
Ah non, pas cette fois. Il est 8h et je commence à 10h le mercredi.
10h. Le mercredi, oui. L'année dernière. Plus cette année.
Et merde.
Vous avez écouté Sous la douche, un podcast de Nathan pour Radio Sorbonne Université.
C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur, merci de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en passant par la page RSU, Radio Sorbonne Université. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. C'était Blanche Monin à l'animation, Thomas Schnell à la mise en onde. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas, tout est possible. Salut!
Retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.